Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Notre étude de ce jour, 23e dans une série sur l'Église, s'intitule « La famille de Dieu ». Nous avons étudié en détail certains aspects de l'Église, tels que son établissement, ses noms, sa loi, son organisation et son travail. Ces traits peuvent nous faire penser à une institution. Et il est vrai que c'est une institution. L'Église fut instituée ou fondée par le Seigneur lui-même. Mais les mots « institution » ou « organisation » suggèrent pour certains gens l'idée de quelque chose d'impersonnel et sans chaleur humaine. On pense au gouvernement d'un État, ou à une société multinationale, de grandes structures où l'individu avec ses problèmes personnels n'ont pas trop d'importance. Cette fausse conception à l'égard de l'Église perd une partie de sa force quand on la contemple à la lumière de ce que nous avons déjà vu dans la Bible concernant la manière dont l'Église est organisée. Il n'y a pas d'hiérarchie régionale, nationale ou mondiale. Les décisions ne sont pas prises dans une ville lointaine par des hommes qui ne peuvent rien comprendre à nos luttes personnelles. Il n'y a que deux niveaux d'organisation que nous avons vus. Premièrement, il y a le chef universel sur toute l'Église, qui est Jésus lui-même. Quel que soit le nombre de millions de membres de son Église, Jésus connaît chacun de façon intime, jusqu'au nombre de cheveux sur sa tête. Le deuxième niveau d'organisation est l'assemblée locale, composée de chrétiens qui viennent ensemble régulièrement pour adorer Dieu, pour apprendre sa parole, pour collaborer dans l'évangélisation et les bonnes œuvres, et pour s'entraider spirituellement. On voit donc que l'Église n'a rien de froid et d'impersonnel. La Bible en fait emploie un vocabulaire de famille en parlant de l'Église. Il est vrai que Dieu est le Créateur et donc, dans un sens, le Père de tous les hommes. Hébreux 12, verset 9 l'appelle « le Père des esprits ». Et puisque chaque être humain est doté d'un esprit, Dieu est Père pour tous. Mais à cause de notre péché et notre rébellion, nous avons perdu la relation avec Dieu qu'il avait voulu entretenir avec nous. Paul dit en Éphésiens 2, verset 12 que nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité au sort qu'elle avait mérité. Il a envoyé Jésus-Christ comme sacrifice pour le péché. Ainsi, Paul dit dans le verset suivant, en s'adressant à ceux qui ont accepté l'Évangile, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Il continue au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » La maison, dans cette phrase, signifie la famille. En effet, le mot « maison » est tellement associé à l'idée de la famille qu'il habite que la maison de quelqu'un est parfois considérée comme synonyme de la famille de cette personne. Être gens de la maison de Dieu, c'est être membre de sa famille. Pour parler de notre entrée dans cette famille de Dieu, qui est l'Église, la Bible emploie deux images. La première est celle d'une adoption. Éphésiens 1, 5 dit que Dieu a voulu que nous soyons ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ne sommes pas, comme Jésus, des fils de Dieu dans le sens où nous partageons avec lui la même nature divine. Nous sommes des enfants grâce à sa bonté. Il a eu pitié de nous et nous a adoptés pour que nous soyons ses enfants. Mais la Bible se réfère à notre conversion non seulement comme une adoption, mais aussi comme une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Jésus avait dit en Jean 3, verset 3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » En 1 Pierre 1, versets 22 et 23, l'auteur parle de nos rapports dans la famille de Dieu et aussi de cette nouvelle naissance ou régénération qui a lieu grâce à la parole de Dieu. Il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous sommes donc à la fois enfants adoptifs et enfants de par notre nouvelle naissance, et cela depuis que nous avons obéi à l'Évangile par la foi, la repentance, la confession et le baptême. Dans les deux cas, que ce soit une adoption ou une naissance, nous appartenons désormais à une famille. Nous avons non seulement un Père céleste, nous avons aussi des frères et sœurs, les autres enfants de notre Père. Nous formons une famille. Et comme si pour rappeler ce fait, le Nouveau Testament emploie l'expression « frère » presque 200 fois pour parler de ceux qui sont dans l'Église. Évidemment, l'appartenance à la famille ne dépend pas des autres enfants, mais du Père. Comme dans nos familles physiques, ce n'est pas à nous de choisir nos frères et sœurs. C'est à nous de les accepter et les aimer. Avoir une famille, c'est une grande bénédiction. Pour ce qui concerne nos familles sur le plan physique, c'est dans le cadre de ces familles que nous trouvons du soutien moral et matériel, du conseil, de l'amour, de l'accueil. Il n'y a aucun stade dans la vie où nous n'avons pas besoin, soit de parents, soit de frères et de sœurs, de maris ou de femmes, de grands-parents ou d'enfants. Un bébé ne peut survivre sans les soins et l'alimentation fournis par sa famille, et notamment de sa mère. Au cours de son développement, l'enfant a besoin également de l'éducation qu'il reçoit de la part de ses parents et ses grands-parents. En tant qu'adulte, face aux difficultés de la vie, telles que le deuil, le chômage ou la maladie, on reçoit de sa famille la force, le courage et l'aide matérielle qui permet de survivre. À n'importe quel âge, sans famille, la solitude peut nuire même au moment de succès et de prospérité. On a besoin de partager non seulement les douleurs, mais les joies aussi. Et bien sûr, la personne est malheureuse qui arrive à la vieillesse sans enfant, sans frère ou sœur, sans nièce ou neveu qui puisse s'occuper d'elle. La famille spirituelle que Dieu a prévue pour le chrétien est aussi nécessaire que les familles physiques. Dans cette famille spirituelle aussi, l'on retrouve du soutien moral et matériel, du conseil, de l'amour, de l'accueil. Dans l'Église, le nouveau converti doit recevoir de la nourriture spirituelle pour grandir. Le chrétien qui faiblit doit recevoir de l'encouragement. Celui qui se rebelle doit être averti, corrigé ou conseillé. Celui qui est dans les situations difficiles telles que la maladie, la faim et le deuil doit se sentir entouré de personnes qui l'aiment sincèrement et sont prêts à l'aider selon leurs moyens. Celui qui se réjouit pour une naissance, un mariage ou un succès quelconque a besoin de pouvoir partager cette joie avec sa famille spirituelle, au lieu de rencontrer de la jalousie ou de l'indifférence. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 12, verset 26, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Et vous ? Jouissez-vous déjà des bénédictions qui sont réservées aux membres de la famille de Dieu? Le Seigneur apprend aux chrétiens à faire du bien à tous les hommes, même à leurs ennemis. De même, une famille charnelle peut montrer de la bonté envers des personnes qui ne sont pas des siens. Il y a quand même une différence entre les membres de la famille et des amis de la famille. Et la différence la plus importante se voit au moment où l'héritage de la famille est partagé. Chacun des enfants reçoit sa part. mais les simples amis n'héritent pas les biens du père de la famille. Comme Paul dit en Galates 6, verset 7, « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Ce sont les enfants de Dieu qui sont les héritiers des biens éternels qui sont réservés dans les cieux. Dieu est prêt à faire de vous son enfant, son héritier, membre de sa famille. Il vous suffit de naître de nouveau. Pour cela, il faut croire à la bonne nouvelle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Vous repentir de vos péchés en vous soumettant à la volonté de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Confessez devant les hommes que vous croyez en Jésus-Christ comme Fils de Dieu et vous faire baptiser, c'est-à-dire immerger au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Le Seigneur vous ajoutera alors à son Église, sa famille sur terre, où vous jouirez de toute bénédiction spirituelle.
Quand le temps qui passe est papy, loin de nous, parents et amis, ne te crois donc pas sans famille, car le Seigneur nous a permis d'avoir des centaines de frères liés par l'amour et la foi. Offrant à Dieu le cœur sincère pour accomplir sa sainte loi. Offrant à Dieu le cœur sincère pour accomplir sa sainte loi. Quand le doute obscurcit ton âme, par un nuage épais et noir, de ton amour éteint la flamme et rend bien faible tout espoir. En t'appuyant sur l'Évangile, cherche un endroit ensoleillé où la foi rendra facile à ton esprit émerveillé, où la foi rendra tout facile à ton esprit émerveillé. Quand Satan t'amène une barque pleine d'artifices trompeurs, te souris et dis: viens en barque, tu connaîtras tous les bonheurs. Reprends-toi d'une main agile, brise le mât et les agrès. Sur le radeau de l'Évangile, gagne le port, il est tout près. Sur le radeau de l'Évangile,